Dieu soit béni. Quel Seigneur extraordinaire nous avons. Une grâce de le connaître, une communion intime, personnelle avec lui. Qu'il se révèle à nous par sa parole, que nous ayons auprès de lui un libre accès. Il ne nous entend pas, il nous écoute. Ça, on en parlera aussi bientôt. Toi qui écoutes la prière, merci Seigneur pour ce merveilleux moyen, ce merveilleux privilège de la prière, où je, par ta parole et par la prière et par ta parole, je suis en communion avec toi Seigneur. Et il y a tellement de choses belles et magnifiques à vivre. Bien sûr, dans la prière, c'est notre série de messages sur les mardis depuis la rentrée. Enseigne-nous à prier. C'était une prière des disciples et c'est déjà une excellente prière, pleine de bon sens. Enseigne-nous à prier. On a déjà vu beaucoup de choses ensemble. Je ne peux plus résumer, tout est en ligne. Ce soir, vous voyez, il y a des gens dimanche matin, je leur ai dit « Ah, bonsoir bon, !» voilà. Il y a des moments, je ne sais plus, mais ça, ce n'est pas grave. Ce soir, j'ai vraiment à cœur d'aborder cet aspect. Ça m'est revenu, je me suis dit « Tiens, il faudrait quand même qu'à un moment... » Vraiment, je vous montre bien plus que l'intérêt, la bénédiction qu'il y a à prier à haute et intelligible voix. Et c'est extrêmement important parce que, bien aimé, prier, c'est pas seulement penser. Prier, c'est pas seulement être très respectueux. C'est pas seulement être recueilli, ce qui est déjà très bien, on en commence par ça. Mais prier, c'est parler à Dieu. Pas que parler. Je vous dirai aussi, sans ambivalence, prochainement, que prier, c'est aussi, dans la présence de Dieu, savoir se taire et écouter. Puisque la prière n'est pas un monologue. La prière est un dialogue. Mais il doit y avoir cette première facette, cet aspect, où prier, je comprends que prier, c'est parler à Dieu, ce n'est pas penser. La pensée de Dieu n'a pas été communiquée, excusez-moi l'expression, par télépathie. Le Seigneur, même s'il sonde mon cœur, le Seigneur ne me communique pas, même s'il peut parler à mon cœur. La façon générale par laquelle Dieu me parle, c'est par sa parole. Dieu a parlé, Dieu s'est révélé et Dieu communique avec moi, pas par télépathie, il parle dans sa parole qui a été nécessairement gravée, mais c'est la parole de Dieu qui a été couchée, écrite de façon infaillible afin que le souvenir s'en conserve, afin qu'elle ne soit pas tordue ou vidée de son sens, mal interprétée avec le temps. Dieu a parler, et quand nous répondons à Dieu, parce que la prière est une invitation à parler, à répondre à Dieu, nous lui répondons avec des mots. Penser ne suffit pas. Croire que Jésus est le Sauveur, qu'il est le Seigneur, qu'il est le Roi, qu'il est, on peut mettre tout ce qu'on veut derrière, ne suffit pas de le croire, de se recueillir ou de méditer. La prière, bien aimée, est nécessairement formulée. Nous apprenons et nous avons besoin, peu importe nos situations, que ça aille bien ou que ça aille pas bien, ça n'a rien à voir avec ça, c'est un principe. La prière, c'est parler à Dieu. Nous apprenons à mettre des mots sur des situations. La prière passe par des mots formulés et audibles. On va déjà faire une première lecture. Je vais vous montrer différents textes, différents passages de l'Écriture. Avant qu'on lise dans le premier livre de Samuel, on comprend bien évidemment que c'est une pédagogie de Dieu. Dieu nous a dotés, les uns et les autres, il nous a dotés de la parole. C'est une des raisons, pas la seule, mais une des raisons pour lesquelles nous sommes à l'image de Dieu et que nous sommes en communication avec lui. Et il y a ici une pédagogie divine. Nous avons, c'est pas que Dieu, puisqu'ils sont de nos cœurs, c'est pas que Dieu a besoin que je lui dise des choses au sens où je vais l'informer de quoi que ce soit. Psaume 139, la parole n'est même pas sur ma langue, tu la connais déjà entièrement, Seigneur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va sortir de votre bouche ou de la mienne ce soir que Dieu n'ait pas déjà parfaitement anticipé ? il est Dieu. Il n'est même pas seulement omniscient, c'est déjà extraordinaire, mais en plus il est prescient, il sait tout d'avance. Donc, il y a ici non pas un besoin pour Dieu d'avoir des mots formulés, mais un besoin pour nous. C'est une pédagogie divine, D c'est toujours Dieu ou divine dans mes PowerPoints, ça me fait gagner de la place. Nous avons besoin, c'est parce que nous avons besoin, bien-aimés, de mettre des mots sur des situations, sur ce que nous ressentons, sur ce dont nous avons besoin. Nous mettons des mots sur des joies, sur des peines, sur des échecs, sur des victoires, sur des blessures, sur des sentiments. Quand j'ai peur, le Seigneur le voit dans mon cœur, mais ça me fait énormément de bien de dire « Seigneur, tu sais que là, honnêtement, je les ai comme ça. Seigneur, j'ai peur. » Parfois, il vaut mieux dire au Seigneur dans sa chambre, il y a des textes où ils n'ont pas élevé la voix. Psaume, on le verra, psaume 3, psaume 142. « Je répands ma plainte devant l'Éternel. De ma voix, dit David, de ma voix, je crie à l'Éternel. » Et des fois, il vaut mieux rentrer dans sa chambre. Alors, on ne peut pas tout faire en public, évidemment, ça, on a compris. Mais il vaut mieux rentrer dans sa chambre et des fois, plutôt que de s'en prendre à son mari, à son collègue, à je ne sais pas qui, parce qu'on n'en peut plus et parce qu'on craque, il vaut mieux rentrer dans sa chambre et dire « Seigneur, au secours, secours-moi, aide-moi. Seigneur, il m'énerve. » Dites-le, Seigneur. « Il m'énerve. Seigneur, je suis en colère. Seigneur, je suis à bout. Seigneur, je suis triste. Seigneur, j'en peux plus. Est-ce qu'un jour, psaume 4, quelqu'un va me faire voir le bonheur ?» Et ils ont parlé à Dieu. Et nous avons besoin, c'est pédagogique, de la part de Dieu, quand il attend de nous que nous mettions des mots sur des situations, quelles que soient ces situations. Parce qu'il vaut mieux, parfois, excusez-moi, aller craquer, pour rester poli, pour ne pas dire péter un plomb, je l'ai dit quand même, et aller craquer dans la présence de Dieu, et vraiment déverser, et puis crier à Dieu, parfois même physiquement, aller crier à Dieu sa douleur, plutôt que d'en faire baver à l'un ou à l'autre, etc. Donc il y a une pédagogie de Dieu. Nous avons besoin de mettre des mots sur des situations. Et je le dis souvent à tous les bien-aimés, mes frères et sœurs, il n'y a rien que Dieu ne puisse pas entendre. Il peut tout entendre. Ton Seigneur, ton frère, Jésus, ton ami, ton roi, il sait tout et il peut tout entendre. Et tu peux tout lui dire. Et je ne sais pas pourquoi, si je sais, c'est parce que c'est humain, parce qu'on a des parts de résistance. Il y a bien des moments, mais on ne dit pas tout au Seigneur. On arrive à prier pour certaines choses, et sur d'autres, on ne dit rien, on est bloqué. Bizarre, hein ? C'est pas si bizarre que ça. Ça fait partie de l'ambivalence humaine. Le Seigneur attend de notre part, non pas des mots habilement formulés, ça ne l'intéresse pas du tout. Dieu attend que ce qu'il y a dans notre cœur, nous le mettions avec des mots audibles, parce que Dieu veut nous empêcher de nous enfermer, parfois dans le déni, j'aurais pu mettre une liste, hein. Il veut m'empêcher de m'enfermer dans l'ingratitude, il veut m'empêcher de m'enfermer dans l'incrédulité, il m'empêche de m'enfermer dans une blessure, il m'empêche de m'enfermer dans la colère, de m'enfermer dans le ressentiment. Je mets des mots parce que les mots sont libérateurs. Tout dans la parole de Dieu nous montre que la parole, nos paroles sont puissantes. Alors bien sûr, seule la parole de Dieu est toute puissante. Elle est créatrice au sens où du néant, il dit la chose arrive. Nos paroles à nous ne sont pas toutes puissantes, mais nos mots, nos paroles sont puissants. Et nos paroles, parfois, des bien-aimés, sont tenus spirituellement, sont liés parce qu'ils ont eu des paroles qu'ils ne devaient pas avoir et ils sont bloqués par des paroles parce que la parole est puissante. Parfois d'autres nous ont dit des paroles qui nous ont fait tellement de mal et ça nous a totalement bloqués et totalement enfermés. Les paroles, frères et sœurs, sont puissantes. Et c'est pour ça que Dieu veut que les paroles, elles aillent d'abord dans ce sens-là. Parce que c'est libérateur, c'est bien. C'est puissant, c'est bien par sa parole que Dieu a créé les cieux et la terre. C'est bien par sa parole, avec l'action conjointe de l'Esprit bien sûr, hein, qu'il a créé les cieux et la terre, et puis aussi qu'il nous a engendrés à sa vie, il nous a fait naître nouveau. De nouveau, par la parole de vérité, dit Pierre, etc., vivante et permanente de Dieu. Donc le Seigneur il y a des choses qui vont être créatrices, qui vont être libératrices, et puis il va nous empêcher de nous enfermer dans des prisons intérieures spirituelles. On va voir différents textes. En réalité, dans la parole de Dieu, à 99,9%, toutes les prières sont formulées. Il n'y a pas de prière pensée. Tout est toujours dit, tout est toujours formulé. Le seul texte, et je vais commencer par celui-là, on va dire que c'est l'exception, mais pas si exceptionnelle que ça, l'exception entre guillemets qui pourrait confirmer la règle, c'est dans 1 Samuel chapitre 1er verset 10, si vous voulez, on ouvre ça ensemble. Comme ça, ça peut aussi vous rassurer peut-être, si c'était nécessaire. Que le Seigneur sait et qu'il entend tout. Vous savez, la Bible montre même que Dieu entend la voix de nos larmes. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous savez qu'il y a ces coupes d'or qui sont les prières des saints qui sont recueillies. Donc tout ce que nous disons à Dieu est recueilli, mais aussi par moments, nous n'avons pas autre chose. Mais ça ne peut pas durer. Mais par moments, ça arrive. Je n'ai pas d'autre forme d'expression que de pleurer. Mais Dieu comprend même le sens de mes larmes. Oh, il n'est pas merveilleux, le Seigneur ? Ça ne veut pas dire que je vais passer mon temps dans le silence. Ce serait déséquilibré. Donc, on est pleinement rassuré vis-à-vis de ça. 1 Samuel, chapitre 1er. On prend les versets 10 à 13. Récit connu, il s'agit de Anne. Verset 10 ou verset 9, allez, Anne se leva, on sait que Anne est éprouvée parce qu'elle est stérile et c'est un sujet de douleur terrible pour cette femme. Son mari est bien gentil mais il ne comprend rien et même le pasteur de l'époque ne comprendra rien à sa douleur. Verset 9, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo, c'est-à-dire le lieu du repos. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Élie est déjà en décrépitude, il est rétrograde. Bientôt, Dieu va régler l'affaire de ce sacrificateur qui est vraiment en perte de vitesse. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Et ça, le Seigneur, il l'a entendu. Il l'a vu, il l'a entendu. Elle fit un vœu, parce qu'il ne fallait pas que Anne s'enferme dans l'amertume. On peut y passer, mais on n'est pas appelé à y rester. C'est trop dangereux. Elle fit un vœu en disant, donc elle a quand même parlé, même si ça n'a pas été audible de la part d'Élie, regardez bien. Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel. Pour tous les jours de sa vie, le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur, donc certainement ça n'a pas été audible à ce moment-là. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, etc., etc. Vous lirez la suite du récit. Et si on va un petit peu plus loin, une fois que, merci Seigneur, Dieu a entendu cette prière, qui était certes formulée, puisque ses lèvres bougeaient, mais inaudible, parce que c'était tellement bas, c'était tellement entre elle et Dieu. Mais Dieu l'a entendue et Dieu l'a exaucée. Ce qui fait que ça me libère, ça ne me met pas de pression, personne ne va se dire ici, ah, le pasteur ce soir, il va nous clasher parce qu'on n'élève pas notre voix à l'église. Attends, non, on n'en est pas là, frères et sœurs. Je vais vous parler des bienfaits de la bénédiction, pas des reproches, de la bénédiction de la prière à haute voix. Et le Seigneur l'a entendu. Donc ça a de la valeur, amen, pas de souci. Mais ensuite, chapitre 2, verset 1er, Anne a réellement été bénie de Dieu, amen, et là, Anne pria et dit, Mon cœur se réjouit en l'Éternel, ma force a été relevée par l'Éternel, ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, je me réjouis de ton secours, nul n'est saint comme l'Éternel, etc., etc. Et là, elle part dans une louange qui, effectivement, évidemment, est totalement audible. Mais Anne, ici, c'est peut-être quasiment une ou presque la seule exception de la parole de Dieu où on a une prière qui est inaudible, mais qui est quand même bien aimée, qui est quand même formulée. Elle a dit à Dieu, elle a ouvert son cœur. Quelqu'un me disait cet après-midi, je ne comprends pas, ça veut dire quoi ouvrir son cœur? Oui, c'est sûr que... Ça veut dire quoi, Seigneur, ouvrir son cœur? Ben, ça veut dire qu'à Dieu, je ne vais pas faire de cachotterie. Je vais lui dire, et c'est comme ça qu'on ouvre notre cœur, en disant, et en disant absolument tout. Donc la prière était inaudible, mais elle était formulée. Elle a mis quand même des mots sur une situation qui la faisait terriblement souffrir et qui même est devenue terriblement dangereuse puisqu'il nous est dit qu'elle avait l'amertume dans l'âme. Et la façon d'être libérée de cette amertume qui aurait pu être destructrice, parce que l'amertume, la colère, etc., la frustration, tous ces mauvais chemins de restauration, on ne joue pas avec ça. On peut y passer, Dieu les comprend, mais on ne doit pas s'installer dedans, c'est trop dangereux, c'est destructeur. Donc, Anne a quand même tout de même formulé, et c'est ce qui lui a permis d'échapper à cette amertume qui commençait à travailler dans son âme. Maintenant, on passe à la généralité de 99,9% des textes bibliques et des prières dans la Bible. Vous ouvrez avec moi Luc chapitre 11, s'il vous plaît. Versets 1 et 2. Luc chapitre 11, versets 1 et 2. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, virgule, dites, deux points, peu importe ce qu'il y a derrière, je dis « Amen. Quand vous priez, dites. Ça doit sortir. Il y a quelque chose qui doit se passer. » Et on a une multitude de textes, beaucoup d'exemples, dans différentes situations, où on s'aperçoit, bien aimé, que c'est une nécessité absolue, que nos prières soient formulées. Je vais même vous dire après que vous, comme moi, nous ne sommes pas fous. Nous ne parlons pas tout seuls, mais nous avons besoin, quand nous sommes seuls chez nous, quand nous prions le Seigneur, je ne pense pas des prières. Je suis seul avec Dieu, je lui parle. Vraiment, je lui parle. Parce que c'est libérateur, parce que j'en ai besoin. Dans ma chambre, ou dans votre salon, dans votre cuisine, où vous voulez, dans la voiture, dans la nature, où vous voulez, je parle à Dieu, je formule. Il faut que ça sorte, peu importe le cas de figure, quand vous regardez bien, ça on peut le prendre quand même, on ne va pas tout lire, hein, mais on peut lire aussi Romains 10, si vous voulez bien, regardez. C'est très intéressant parce que dès le commencement de la vie chrétienne, c'est-à-dire quand on parvient au salut, ça commence tout de suite avec des mots, avec une formulation, ça commence tout de suite avec quelque chose d'audible, on appelle ça une confession. Romains, chapitre 10, verset 8, les versets 8 à 10, Romains chapitre 10, les versets 8 à 10. Que dit-elle donc ? Il s'agit de la parole. Que dit-elle donc ? Verset 8. La parole est près de ton et près de toi, elle est dans ta bouche, pas seulement dans ton cœur. La parole est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche croire que Jésus est venu, amen. Parce que si je dis que je crois que Jésus est venu, qu'il est mort sur la croix, pour que je n'y crois pas, c'est religieux, ça ne sert à rien. J'y crois, mais ce que je crois a besoin d'être confessé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, il n'a pas dit si tu crois dans ton cœur, ce que tu crois dans ton cœur doit être confessé de ta bouche, mon bien-aimé. Si tu confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur, il y a donc les deux, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. La confession de foi est nécessaire, des mots audibles, des mots formulés, audibles, pour l'accès au salut. Car c'est en croyant du cœur, amen, qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus, etc., etc. Quand nous, peu importe le besoin, peu importe la situation, frères et sœurs, quand, que ce soit chez nous, seul avec Dieu, en petit groupe, ou quand nous sommes ensemble ici, le mardi, le dimanche, peu importe. Mettre des mots, même seul chez soi, mettre des mots, c'est un moyen de prendre position. Nous prenons position pour Jésus, déjà personnellement, et après ensuite, publiquement. Nous le confessons, c'est un moyen de prendre position. Bien souvent, des gens, pas seulement des gens en approche pour le salut, mais des frères et sœurs me disent, mais tu sais, j'y crois sincèrement. Mais je sais que vous y croyez sincèrement. Mais ce qui fait que vous n'allez pas plus loin, c'est qu'il n'y a pas de confession. Ça ne sort pas. Souvent, on dit, j'y crois. Oui, c'est très bien, il n'y a aucun doute là-dessus. L'étape suivante, logique et indispensable, c'est qu'il faut que ce soit confessé de façon audible. Tu y crois dans ton cœur, mais le problème, c'est que ça ne sort pas de ta bouche. Donc, ça reste bloqué là, et du coup, ça devient inefficace. C'est inefficace. Que toute langue confesse ce Seigneur Jésus qui s'est abaissé pour un temps, c'est tout ce passage magnifique de Philippiens 2, l'abaissement de Jésus, afin que toute langue confesse, et c'est ça le but, c'est nécessaire, la confession pour tout un chacun de cette nature divine de Jésus, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tu crois dans ton cœur que Jésus est Seigneur, c'est bien, mais il y a des dimensions dans lesquelles tu ne parviendras pas et ça ne te bénira pas parce que ta bouche ne confesse pas « Seigneur, je crois, Jésus, que tu es Seigneur ». Et plus tard, viens comme Thomas, tôt ou tard ce jour, on est brisé aux pieds de Jésus et on dit « Mon Seigneur, mou kurios, mon Seigneur et mon Dieu à moi ». Et là, il y a vraiment quelque chose des dimensions. Quand on regarde, peu importe le contexte, un contexte de repentance, d'accès au salut, le parler en langue, un contexte où David avait péché, un contexte d'épreuve comme dans le psaume 3, un contexte où on va accorder le pardon, on va demander pardon ou accorder le pardon, de toute façon, peu importe les situations, on s'aperçoit qu'à chaque fois, c'est audible. La confession du prodigue, étant rentré en lui-même, il a commencé à faire le point. Il a commencé à sérieusement réfléchir au sens et au ratage total de sa vie. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de serviteurs, des mercenaires même chez mon père ont du pain en abondance, moi ici, j'ai même pas la nourriture des cochons. » Et sur cette base-là, il fait une démarche. Il se dit « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai. » Il se lève, il va vers son père et il n'a pas regardé, il n'y a pas eu de télépathie. Il a dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne de toi. » Et le père lui a dit « Hop, hop, ne dis rien de plus, si tu me parles de mercenaire, tu vas dire une bêtise. » Hop, il le prend dans ses bras. Il y a eu une confession. Nous qui sommes au Seigneur depuis un certain temps, autant Jacques que Jean dans leurs épîtres, nous disent, nous bronchons tous, c'est-à-dire il nous arrive à tous de pécher. Nous ne vivons plus dans la boue, nous ne vivons plus dans le péché. Mais commettre un faux pas, salir cette robe pure de justification que Jésus nous a acquise pendant la marche, pardon, Ça peut évidemment arriver. Et c'est dans ce contexte, nous ne vivons plus dans le péché. Mais l'apôtre Jean est clair. Si quelqu'un, non pas vit dans le péché, ça c'était avant, si quelqu'un a péché, parce qu'il sait très bien que ça peut arriver. Ben, il y a quelque chose de très clair, mais en même temps, il y a une grande condition. Si nous confessons nos péchés, mais il faut le lui dire. Et là, le Seigneur, il a trouvé un truc génial pour nous coincer, pour pas qu'on se débine, pour que... Non, non, c'est... j'ai besoin que tu me dises à moi, Dieu, en premier, peut-être que tu auras des choses à régler avec ton épouse, avec tes enfants, avec un frère, avec un collègue, avec une sœur, tu auras des choses à régler. Mais il faut que tu saches que dans tes attitudes, le premier qui a été offensé, c'est moi, Dieu. Stéphane, si tu parles mal à ton épouse et que tu ne lui accordes pas l'amour, le respect et le soin que j'attends de toi, c'est moi que tu blesses en premier. Et avant de demander pardon à ton épouse, Stéphane, tu vas me demander pardon à moi. Parce que tu as touché celle que j'ai mise auprès de toi et tu as une responsabilité envers elle. Tu as blessé ton épouse, en la blessant elle, tu m'as d'abord blessé moi. Donc je viens vers mon Dieu et je dis Seigneur, et là, il y a un bruit de verre brisé, ça... Ah, pourquoi le Seigneur a demandé la confession? Pourquoi il a demandé le pardon? Pour ne pas que l'on s'enferme dans le déni, dans le « c'est pas si grave », dans l'orgueil, « c'est ta faute à toi », « oui mais si t'avais pas commencé », « oui mais si t'étais plus comme si ». Le Seigneur ne veut pas qu'on s'enferme. Donc il amène une nécessité de confession, et d'abord envers lui. « Seigneur, j'ai été comme ça, j'ai dit ça et ça à Anne, je lui ai fait de la peine. Avant d'aller la voir, Seigneur, je te demande pardon à toi. » Mais vous savez que nos vies spirituelles, quand on a le courage de faire ça, elles prennent des... on vit des libérations intérieures. Il y a des tas de choses qui ne peuvent plus nous enfermer, qui ne peuvent plus parce que c'est pour ça que le Seigneur a inventé, c'est un grand mot là, invention, que le Seigneur a inventé la repentance, qu'il a inventé la confession, parce que c'est comme ça qu'il atteint notre ego. David est dans ce moment très, très, très honteux avec Bathsheba, deuxième livre de Samuel. Je vous ai parlé d'Hébron, c'était magnifique dimanche, hein, Hébron. Et le problème, c'est que le jour où David a oublié la valeur spirituelle d'Hébron et qu'il a cessé de vivre la réalité spirituelle d'Hébron dans sa vie, même depuis Jérusalem, il n'était plus à sa place. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu la chute avec Bathsheba. Et ensuite, on sait que pendant plusieurs mois, il a essayé de cacher, il a essayé de dissimuler le truc. Et là, c'est sa confession qui a libéré son âme de l'enfermement et du poids de la condamnation du péché. « Tant que je me suis tu, ta main, Seigneur, s'apesantissait sur moi. » Pas parce que tu ne m'aimais plus, mais parce qu'il fallait absolument que mon cœur se brise, que ma bouche s'ouvre et que tu puisses me sauver à nous. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, ma vigueur n'était plus que sécheresse. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Je n'ai pas caché à l'Éternel mes fautes. Et tu as effacé la peine de mon péché. » Peu importe les contextes, la confession, bien-aimée, elle est toujours libérate. Merci Seigneur. Acte 2, 1 Corinthiens 14. Le parler en langue. Le Seigneur ne m'a pas donné le penser en langue. Dieu est parole. Il m'a donné, par le baptême du Saint-Esprit, il m'a donné le parler en langue. Acte 2, tous les peuples venus du bassin méditerranéen pour la fête de la Pentecôte, le 50e, ils viennent, l'effusion de l'esprit dans la chambre haute, et ils disent, tous ces peuples qui sont là, comment les entendons-nous parler, dans nos langues à nous, des merveilles de Dieu. Le parler, 1 Corinthiens 14, celui qui, non je ne pense pas en langue, quand je prie je parle en langue. Alors dans l'église, bah évidemment je le fais avec... On n'est pas les Corinthiens, on ne va pas partir dans de l'exubérance. Hein. Mais je le fais à ma place, je le fais discrètement, mais je le fais, je parle en langue, je ne veux pas être exubérant. Non mais je parle, je prie, quand je prie en français, je ne prie pas en langue. Et quand j'ai fini de, je ne sais plus quoi dire au Seigneur, ou un sujet, un autre, je ne parle plus en français, je parle en langue. Parce que pendant que je parle en langue, l'Esprit agit, il fait monter dans mon cœur des pensées, des sujets, des actions de grâce, des louanges, il fait monter en moi. Je parle en langue et des pensées viennent, hop, et je me remets à prier, à louer, à intercéder dans ma langue maternelle. L'apôtre Paul dit bien, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Je désire que vous parliez tous en langue, dit Paul. N'empêchez pas de parler en langue. Je rends grâce à Dieu, je parle en langue plus que vous tous, etc. etc. Encore une fois, du parler audible, toujours dans la bienséance, évidemment, ça on en est conscient, mais vous avez compris le principe de la pensée qui est parlée et formulée. Dans un contexte d'épreuve, de ma voix, je crie à l'Éternel, j'implore l'Éternel, je répands ma plainte devant lui. Psaume 3, psaume 42. Quand il y a des besoins de, soit de demander pardon, c'est la confession, ou parfois nous accordons le pardon. Ce pardon que nous accordons, frères et sœurs, la personne qui est en face de toi, peut-être pardon qu'elle n'en a rien à cirer du tout, que tu l'aies pardonné ou pas, mais il faut qu'elle l'entende, même si elle n'en veut pas. Il faut qu'elle le sache. Le Seigneur a besoin que tu lui dises. Toi, tu as besoin que ce soit dit, parce que les mots sont puissants et ça permet de clôturer, de verrouiller des dossiers quand on est en train de parler à Dieu ou quand on va parler à son épouse, à son mari, à un enfant, à un parent, à un frère, à une sœur. On va parler, soit pour demander le pardon, soit pour accorder le pardon. L'autre doit savoir, pardon même s'il n'en a rien à cirer. Il doit savoir et tu as besoin parce que ça va clôturer quelque chose dans ton cœur et ça va libérer ton âme. Je veux que tu saches que je t'ai pardonné. Et même s'il te regarde en rigolant ou si elle te regarde en rigolant, je veux que tu saches que je t'ai pardonné et qu'il ne subsiste, 1, 2, 3, il ne subsistera rien dans mon cœur envers toi. Il en fait ce qu'il veut. Mais ton âme, elle va goûter à une nouvelle liberté. Étienne, l'injustice suprême, sur le chemin de son maître, il a osé annoncer le nom glorieux et puissant de Jésus. Et il a prêché Jésus. Il a parlé avec courage, avec audace, avec humilité, au Sanhédrin, au chef du peuple, aux responsables. Ils se sont ligués contre lui. L'apôtre Paul, qui était Saul de Tarse à l'époque, était là dans ce système judiciaire de l'époque. On mettait un caillou blanc pour l'acquittement ou on mettait un caillou noir pour condamner. Et Saul de Tarse, qui respirait la menace et le meurtre, arrive, il était là au moment de l'exécution, de la lapidation d'Étienne. Il prend le caillou noir et il le dépose. Une façon de dire, mettez-le à mort. Et là, Étienne est lapidé. Et au moment où Étienne est lapidé, il nous est dit, il a vu Jésus se tenir debout dans le ciel. Et à ce moment-là, quand il a vu la révélation de Jésus, alors que les pierres commençaient à pleuvoir sur lui, il s'est écrié d'une voix forte. Il n'a pas dit dans son cœur, ils ont quand même été durs sur ce coup-là, hein, franchement. Ah ben mon Seigneur, écoute, tu les connais, bon ben Seigneur, voilà. Ben. Non, il n'a pas pensé, il s'est écrié d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché !» Ils ont tous entendu, qu'ils en aient voulu, pas voulu, ils ont tous entendu ça. Mais Saul de Tarse, il l'a entendu. Et quelques mois plus tard, il était courbé sur le chemin de Damas, et c'est devenu l'apôtre que nous connaissons. Quel témoignage par un pardon qui a été accordé. Alors je mets juste ça vite fait pour terminer, bien-aimé. Bien sûr, on a compris, tout ne peut pas être exprimé en public. En fonction de ce que nous avons à exprimer au Seigneur, il y a des choses que nous disons à Dieu dans notre intimité. On ne peut pas tout dire en public avec des frères et sœurs. Tout le monde ne serait pas nécessairement, vous avez bien compris, en capacité de comprendre. Et il y a aussi certains besoins, certaines confessions qui ne peuvent être exprimées que seul avec Dieu. Ça ne concerne que Dieu et toi, mon frère, ma sœur. Priez à haute et intelligible voix. Je termine avec ça. Ça, c'est cet aspect où nous apprenons à prier, à formuler des mots, même seul avec Dieu. Extrêmement important. Et puis ensuite, c'est certainement le chemin. C'est ce qui va aider beaucoup de cœurs, beaucoup de frères et sœurs qui sont là, malheureusement, dans cette grande question de dire, même parfois dans la frustration, parfois dans une espèce de honte, dans une gêne, de se dire, comment est-ce que je vais pouvoir prier devant tout? Comment est-ce que je... Ben, vous savez ce qu'on dit, frères et sœurs. C'est en forgeant. Ben oui. Ah oui, mais j'ai jamais prié, j'ai jamais élevé ma voix devant tout le monde. Oui, je sais. Mais avant de venir ici à l'église, tu venais jamais. Et avant d'aller à la piscine, tu n'avais jamais été dans l'eau. Puis un jour, tu y as été. Elle était un peu froide au début. Hein. Avant de faire du vélo, tu n'avais jamais fait de vélo. Puis avant d'être marié, tu n'avais jamais été marié. Puis avant d'avoir des enfants, tu n'avais jamais eu d'enfants. Je continue ou vous avez compris? Il y a un moment, frères et sœurs, il faut y aller, il faut se mettre à l'eau, tout simplement. Et simplement ce chemin où dans l'intimité du maître, quand nous sommes seuls avec lui, nous lui parlons, nous formulons. C'est aussi comme ça que l'on forge, c'est aussi comme ça que l'on apprend, qu'on prend des bonnes habitudes pour s'exprimer dans la prière. Et puis ensuite, comment est-ce que je vais faire pour exprimer ma prière à voix haute, cette fois en collectivité? Parce que ça, du coup, ça peut vraiment être problématique. Et pourtant, là encore, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction pour le Seigneur parce qu'il aime entendre ta voix. C'est une bénédiction pour toi, parce que c'est libérateur sur beaucoup de choses. Vous savez, prier, bien-aimé, c'est déjà une victoire sur nous-mêmes. Et puis, c'est aussi bénissant pour les frères et sœurs. Quand on entend quelqu'un prier, ça fait du bien. Et jamais on est là en train de se dire « T'as vu ? Il a fait pas de freshness, rien de freshness. » Vous savez ce qui est merveilleux avec le Seigneur ? C'est que quand je la refouille, quand je bafouille et que les mots ils sortent à l'envers, mon papa il m'aime tellement que lui il remet les mots à l'endroit et il rigole pas. Alors même quand je bafouille, ben c'est pas grave. Parce que je sais que mon papa il m'aime. Alors quand je commence à prier chez moi à voix haute, ben du coup, oui, j'apprends là, j'apprends à mettre des mots. Et puis, comment est-ce qu'on fait pour prier aussi en collectivité ? Ben en arrêtant de se comparer les uns les autres. Pourquoi est-ce que nous regardons la prière des autres, l'éloquence des autres ? Vous croyez que Dieu a quelque chose à faire des prières habilement formulées ? Dieu ne regarde-t-il pas à mon cœur ? Est-ce que on n'a pas, c'est une façon rhétorique de parler, hein, est-ce qu'on n'a pas compliqué la prière ? En fait, ça veut dire oui, frères et sœurs, trop souvent. On a compliqué la prière, on l'a montée à un niveau. Le Seigneur, lui, n'estime pas la prière à son élocution. Le Seigneur n'estime pas ta prière à sa longueur. Ah pardon, j'ai le micro qui a baissé, pardon frère. Le Seigneur n'estime pas ta prière au volume de la voix, à son débit, à sa longueur, à sa fluidité. Le Seigneur ne regarde rien de tout ça. Il regarde à l'amour qu'il y a dans ton cœur pour lui. Et le problème, bien-aimé, pourquoi on est bloqué ? Parce qu'on s'est focalisé sur le regard des autres, sur ce que les autres pourraient peut-être penser, au lieu de, dans un acte d'amour, de dire « Seigneur, j'ai tellement envie de te faire plaisir, je veux te parler à toi. » Et élever sa voix avec des mots simples, sujet, verbe, complément, avec sans calcul, avec la simplicité du cœur. Et si vous dites un jour « Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Je te dirai jamais assez merci. Tu m'as sauvé. Merci Seigneur. Amen. » Mais ça fait dans l'amour, le cœur, la foi, la reconnaissance. Mais ça a toute la valeur du monde. Et le Seigneur ne me demande pas de sortir une grande liturgie évangélique interminable. Et je ne veux pas douter de l'amour de mon Père Céleste. Et je ne veux pas non plus douter de l'amour de mes frères et sœurs. Je ne suis pas là depuis longtemps. Mais je sais qu'il y a suffisamment d'amour ici pour que chacun puisse élever, exprimer sa louange, sa reconnaissance, son besoin au Seigneur, sans qu'il y ait de mauvaises pensées dans nos cœurs. Ça, c'est une évidence. Et on a besoin simplement de ne pas centrer nos regards sur nous, mais de centrer nos regards sur le Seigneur. Même pas sur les frères et sœurs, mais de centrer les regards sur le Seigneur.
Vous savez, bien-aimé, je termine vraiment. Je sais que c'est ma troisième conclusion. Pour la plupart ici, nous avons été parents.
Est-ce que vous vous souvenez, mes frères ou mes sœurs, de la première fois que votre enfant, en vous regardant avec des yeux émerveillés, il a même pas, tellement il était nul ce gamin, il a même pas réussi à dire « papa ». Il a dit « Adada ». Mais vous, à ce moment-là, vous étiez dans un transport, joie, d'allégresse. Vous avez vu l'amour dans ses yeux et vous avez vu que c'était mal sorti. Mais dans son cœur, vous saviez que votre enfant, il vous avait identifié comme papa. Et quand il a dit « maman », il n'a pas dit « maman » au début, il a dit « ah, mama ». Puis après, quand il avait faim, il n'a pas dit « gâteau », il a dit « ah, tato ». Et vous n'avez pas regardé vos enfants en disant « mais qu'est-ce qu'il est nul ce gosse ? Mais il est incapable de parler convenablement, chérie. Comment tu nous as fait des enfants comme ça ? Regarde-moi. » Non, vous étiez transporté de joie et d'amour, mes frères et sœurs. Mais nous, méchants comme nous sommes, nous avons été transportés d'allégresse. Quand nos enfants, il y en a qui pleurent, désolé, hein. Quand nos enfants nous ont donné trois phrases, mais trois phrases, qu'est-ce que je dis ? Trois mots, puis après une phrase. Et mon papa céleste, il serait pas le plus heureux des pères, parce qu'il est parfait, de m'entendre dire « Seigneur, je t'aime. Seigneur, merci. Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, je... » Allez, j'arrête. Soyez bénis.